Bonjour à tous. Vous m'entendez? Je peux aussi me passer du micro si vous préférez. Je porterai la voix. Non? Bon. Oui, en fait, je suis dans une situation très délicate. Hein. Je me suis fait piéger là. Hein. Je ne devrais pas être ici. Hein. Pourquoi est-ce que je me suis fait piéger? Pour deux raisons. L'an dernier, au cours d'une table ronde à propos de la fantaisie française, j'avais évoqué le fait que la fantaisie française était apparue plus tardivement par rapport à la fantaisie anglo-saxonne, mais j'avais risqué une hypothèse, c'est qu'on avait eu un écrivain au milieu du XXe siècle qui avait quand même, qui était perçu comme un écrivain très classique, hein, très littéraire, Julien Gracq, et j'avais risqué l'hypothèse que quand même il avait pu écrire quelque chose qui s'apparentait à de la proto-fantaisie, et je m'étais lamenté parce qu'il y avait un roman inachevé de Julien Gracq. On savait qu'il existait, il en avait publié un extrait, donc Les Terres du Couchant, mais il n'avait jamais été publié. Gracq est mort maintenant depuis quelques années, il est mort en 2007, et par conséquent, je pleurais sur ce roman impublié, dont on avait pu découvrir une dizaine de pages, qui m'avait semblé avoir un parfum de fantaisie très littéraire. Là-dessus, en octobre, ce roman a publié, 7 ans après la mort de son auteur, est publié. Les Terres du Couchant. Je l'ai raté sur le moment. Et puis, quelques mois plus tard, je le découvre. Je suis ravi. Bêtement, j'ai un réflexe stupide. Je le note sur Facebook et je me suis fait piéger. On m'a demandé de venir en parler. Donc, je viens en parler. Alors, Gracq, bon, je vois que certains d'entre vous le connaissent, c'est un auteur qui est difficile à connaître, en fait, tout simplement parce que c'est un auteur qui ne se veut pas grand public. Il a mené une carrière où il refusait la reconnaissance publique. Et une des raisons pour lesquelles le public a du mal à accéder à ses œuvres, c'est qu'il a toujours refusé que ses œuvres soient publiées en poche. Donc, on ne peut le lire que chez la Pléiade. Alors, consécration quand même, c'est un auteur qui a été publié chez la Pléiade de son vivant. Et on ne peut le lire que chez son éditeur, hein, José Corti, sachant que moi j'étais très surpris devant ce volume, parce que c'est un volume qui est tout à fait normal. Les romans précédents de Julien Gracq, ils n'étaient pas massicotés. Donc en plus, vous achetiez un roman de Julien Gracq, les cahiers étaient toujours reliés, il fallait découper avec un coupe-papier toutes les pages avant d'avoir accès au texte. Alors forcément, c'est un auteur qui ne s'aborde pas facilement. Je vais revenir un petit peu sur la façon dont moi je l'ai découvert. Et puis ensuite, je vous présenterai un petit peu plus longuement Julien Gracq, c'est pas son vrai nom. Et puis je reviendrai aussi sur ce roman qui est peut-être, je dis bien peut-être, hein, un chaînon manquant dans la littérature française entre fantasy et ce qu'on appelle la littérature blanche ou la littérature générale. Comment est-ce que je l'ai découvert? Compte tenu du fait qu'il est peu accessible, moi je l'aurais jamais découvert par moi-même. J'ai eu la chance d'avoir des bons profs de français. Pendant ma classe de première, j'ai un prof qui nous a donné en commentaire composé un texte de Julien Gracq. Alors je vais vous lire ce petit texte qui m'avait beaucoup frappé. Je ne le connaissais pas du tout. C'est un texte qui est extrait de son premier roman, Un beau ténébreux. Le titre d'ailleurs, je pense qu'il va parler à la médiévaliste qui est à côté de moi. C'est l'extrait en fait d'un rêve qui est fait par un des personnages. Ça n'a pas de connexion directe d'ailleurs avec l'ensemble du roman. Et j'y avais pressenti un imaginaire qui se rapprochait beaucoup de la fantaisie. Il se trouvait au milieu d'une armée en guerre, dans un très ancien château perdu parmi les forêts tristes de la Baltique. Une vieille construction grise et noble, en fer à cheval autour d'une cour dallée, toute verdie d'humidité. Les toits moussus, pourris sous la cataracte incessante tombée des branches. Un séjour lugubre, et quoique les feuilles pendissent encore aux arbres, déjà glacées. Cependant, autour de cette sombre bâtisse, le grouillement d'ordinaire si bruyant d'une armée en campagne avait tendu à prendre depuis quelques jours un caractère spécialement silencieux et monotone. Sur la boue grisâtre des chemins, derrière les attelages faiblissants, les roues glissaient lentes et sans bruit, comme des charrettes fantômes. Et de jour en jour, sur les plans, sur les cartes, dans la haute salle du château, les visages se penchaient plus amaigris, plus vidés de tout espoir. Par les échappées incertaines des sentiers des bois, dans le va-et-vient des estafettes furtives, dans les conversations peureuses à la tombée du soir auprès des cuisines, dans les baraquements frileux, acharnés, tenaces, isolantes, insaisissables, tapis comme un essaim de guêpes, obstinés à détruire, filtraient sans cesse les mauvaises nouvelles. Et chaque jour, les visages se faisaient plus cadavériques sous le casque, chaque jour plus falote la démarche des insectes gris, ployant sous le macabre boursouflement de leurs morions trop lourds. Alors, ce texte a été ma première rencontre de Grac. Et bêtement, en élève de première littéraire, j'étais habitué à rencontrer des textes que j'estimais classiques, un peu soporifiques, parce que je les jugeais très mal. Hein. Et là, j'ai trouvé dans les images employées par Grac quelque chose qui me renvoyait à une armée fantôme, quelque chose de fantastique, mais qui me renvoyait aussi à un imaginaire fantasy que je pratiquais par ailleurs. Et ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué, ce qui fait qu'ensuite j'ai cherché ce roman, je ne l'ai pas trouvé puisqu'il existait à l'époque que dans la Pléiade, c'était trop cher pour mon budget de lycéen, que chez José Corti, et je ne connaissais pas José Corti, et je le cherchais dans les rayons poche, et bien sûr je ne l'ai pas trouvé. Heureusement d'ailleurs que je ne l'ai pas trouvé, parce qu'à mon avis je n'avais pas la maturité pour comprendre ce roman. J'ai eu la chance de tomber finalement un an plus tard à peu près sur un recueil de nouvelles, La Presqu'île. Un recueil qui nous intéresse beaucoup parce que le premier texte de ce recueil, La Route, est en fait l'extrait du roman que Grac n'avait pas publié de son vivant. C'est le seul extrait qu'il a publié, donc un extrait des Terres du couchant. Alors cet extrait, coupé de son contexte, raconte la façon dont un groupe de cavaliers suit un chemin qui mène d'un royaume vers une contrée étrangère, une montagne qui semble assaillie par une armée barbare. Ça raconte le voyage, on devine que ces gens sont en train de se diriger vers le front pour se battre. Et on a une peinture très poétique de la nature qui s'ensauvage peu à peu, qui retombe dans l'oubli et la sauvagerie, tout simplement parce que les hommes ont fui devant l'avancée de l'envahisseur. Et là encore, je percevais un imaginaire qui avait quelque chose de très fantaisie, même s'il n'y avait pas de surnaturel à proprement parler, mais il y avait un monde secondaire qui était présent, il y avait un imaginaire qui était influencé par des images médiévales. Et par conséquent, il y avait quelque chose qui avait la saveur de la fantaisie, tout en étant écrit dans une langue extrêmement littéraire. On présente souvent Grac comme un auteur classique, mais en fait c'est plutôt un auteur romantique, influencé par le surréalisme, parce que ses auteurs de prédilection sont des romantiques. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de très étonnant dans ce texte, avec un style littéraire travaillé presque 19e siècle, et un imaginaire qui lui se rapprochait beaucoup de l'imaginaire de la fantaisie contemporaine. Donc ça m'avait marqué, ce qui m'a amené par la suite à découvrir l'œuvre de Grac et à découvrir un peu mieux Grac. Alors qui est-ce ? Je vais peut-être le présenter un peu. Il ne s'appelle pas Grac. De son vrai nom, il s'appelle Louis Poirier. Nom tout à fait ordinaire. Pour quelqu'un qui a toujours voulu passer pour un homme ordinaire, ce qu'il n'était pas. Il est né en 1910, il est né sur les bords de Loire, et d'ailleurs il a fini sa vie aussi sur les bords de Loire, hein, Saint-Florent-le-Vieil. Il est issu d'un milieu de petits commerçants, petite bourgeoisie, pas forcément très cultivée. Hein. Grac dit que dans son enfance, il n'y avait pas de livres à la maison, que les livres, il les découvrait à l'école, qu'ils étaient rares et pour ça, ils étaient précieux à ses yeux. Une enfance relativement épargnée, hein. Certes, il naît en 1910, la Première Guerre mondiale éclate juste après, mais il dit qu'il n'y a pas d'hommes proches de sa famille qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, ce qui fait qu'il a déjà eu une enfance un petit peu à part. Ce qui va le marquer dans cette enfance, ce qui est important, c'est la lecture de quelques romanciers, en particulier de Jules Verne. Jules Verne qui le marquera durablement et dont il dira que Jules Verne a influencé ensuite sa carrière. Hein. Grac a été professeur d'histoire-géographie et son goût pour la géographie lui serait venu déjà de la science-fiction et des récits, des romans d'aventure de Jules Verne. Une scolarité à la fois malheureuse et brillante. Il est interne au collège et lycée, au lycée de Nantes. Il déteste absolument l'internat. Il déteste la promiscuité. Mais il s'évade, en fait, par l'intermédiaire des cours. Ce qui fait que c'est un élève extrêmement brillant. Je crois qu'il a décroché 7 prix au concours général. Donc, une bête de concours hein, dès son adolescence. Et l'autre élément qui est vraiment déterminant dans son adolescence, c'est la découverte d'un romancier qui peut nous paraître très classique, c'est la découverte de Stendhal. Hein, Grac est un Stendhalien et il est tombé sous le charme du rouge et du noir de Stendhal. Parce que dans le personnage de Julien Sorel, il reconnaît une espèce de révolte intériorisée contre la société qui correspond à la prise de distance qu'il a lui-même avec la société. Ça, c'est quelque chose à retenir que je trouve intéressant. Parce que Grac a toujours voulu se maintenir à une certaine distance de la société. Et peut-être que ça peut être une clé pour comprendre pourquoi on l'a catalogué comme un écrivain d'imaginaire. Et peut-être que ça peut permettre de comprendre justement cet imaginaire qui se rapproche de la fantaisie dans son œuvre. Grac écrit un peu, dit-il. Bon, il faut toujours se méfier de ce qu'on dit un écrivain. Un écrivain, c'est un mythomane professionnel, donc il déforme toujours la réalité. D'après ce qu'il dit, lui, il n'écrit pas dans son adolescence, ou très peu, hein, des vers de Mirliton, pas grand-chose. Il fait des études extrêmement brillantes, mais pendant ses études, il n'écrit pas. Alors, des études vraiment brillantes. Donc, après avoir décroché son baccalauréat, il va. C'est un prédécesseur de ma voisine. Hein. Il va fréquenter donc Henri IV. Hein. Il va faire la prépa, donc la prépa littéraire, hein, Cagnes, Hypocagnes. Il décroche Normale Sup du premier coup. Et parallèlement à ses études à l'école normale supérieure, il va suivre le cursus de ce qu'on appelle à l'époque, dans les années 30, l'école libre des sciences politiques, c'est-à-dire Sciences Po. En termes rôlistes, on dirait de Julien Gracq qu'il est biclassé. Hein, il va à la fois être diplômé de Sciences Po et puis faire passer du premier coup aussi, hein, une agrégation d'histoire-géographie. Et il explique que son goût pour la géographie lui vient de Jules Verne. Ces années d'études sont importantes pour lui parce qu'au cours de ses études à Paris, il fait plusieurs découvertes. Il découvre les opéras de Wagner, hein, en particulier Parsifal. Et la musique de Wagner, comme l'imaginaire wagnérien, c'est-à-dire un imaginaire médiéval, le frappe, hein, le frappe à tel point que. En reparler, hein. Il écrira ensuite une pièce de théâtre qui est vraiment inspirée du Parsifal de Wagner. D'autre part, ce qui est intéressant dans son séjour parisien, c'est qu'il découvre le surréalisme. Et il se passionne pour le surréalisme, même s'il n'adhérera pas au groupe surréaliste. C'est intéressant parce que le surréalisme prend ses distances avec la raison, et chez Grac, il y a cette prise de distance avec la raison qui le rapproche de l'imaginaire. Le surréalisme va explorer hein, le rêve, l'inconscient, et c'est quelque chose qui intéresse Grac, même s'il n'adhérera pas au groupe surréaliste. Mais ce sera en quelque sorte un compagnon de route du surréalisme. Il va en particulier, à la fin des années 30, rencontrer André Breton, devenir un ami de Breton, devenir en quelque sorte un biographe et un conférencier de Breton. Donc, une fois ses études terminées, alors, elles ne sont pas terminées, et c'est là où on peut remercier la Providence. Il a 27 ans, donc il a passé son agrégation, il est professeur, il commence à enseigner, mais il voudrait prendre une année de congé, et il la prend d'ailleurs, hein, pour faire une thèse de géographie. Dans les années 30, Grac est très à gauche. Au cours d'un voyage à Budapest, il a rencontré des nazis, et même s'il est germanophile, il a tout de suite compris ce qu'était le nazisme, un totalitarisme. Peut-être que par sympathie aussi pour le surréalisme, qui est très à gauche, hein, breton et communiste, il a adhéré au PC. Donc il est très à gauche et il veut faire une thèse de géographie sur l'URSS. Donc il a pris une année de congé pour faire sa thèse. Remercions le caractère kafkaïen de l'administration, je ne sais pas si elle est française ou soviétique. Mais en tout cas, son visa lui est refusé. Il ne peut pas faire sa thèse. Et il dit qu'une heure après avoir appris que son visa était refusé, il a déjà son congé. Il a un an devant lui. Il se met à écrire son premier roman. Il prétend qu'il n'avait pas projeté, que ça a été vraiment accidentel, hein, au château d'Argol. Alors, c'est un roman qui est encore très inspiré par le romantisme. C'est un roman très, très orné. C'est un roman qui ne rencontrera quasiment aucun écho. Hein. Je crois que la première année, il est vendu à 150 exemplaires. Mais il est découvert par un certain nombre d'écrivains, et en particulier par les surréalistes, hein, par Breton, ce qui donne à Gracq un accès, disons, au groupe surréaliste en tout cas. Par la suite, il est pris dans le tourbillon de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, il sera, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, il sera capturé, il est officier, hein, il est lieutenant, il sera capturé au cours de la bataille de Dunkerque. Hein. Il conserve un souvenir lamentable hein, de la bataille de Dunkerque. Hein. Il appelle ses combats la nuit des ivrognes parce que tous ces hommes sont ivres. Étant donné qu'on fournit leur litron de rouge aux soldats français pour leur donner du courage au feu. Hein. Il est capturé, il va être enfermé dans un stalag, dans un camp de prisonniers d'officiers en Silésie. Et là, il se remet à écrire. Il écrit donc, en tout cas, il commence la composition d'Un beau ténébreux, qui est le roman dont je vous donnais lecture d'un extrait tout à l'heure. Ce roman connaîtra. Donc, ce roman paraîtra en 1945. Pour résumer à très très grands traits, c'est encore une fois un roman qui est très influencé par le romantisme, à mon sens.
Gothique.
Oui,
Un
oui.
romantisme noir.
Oui. Qui raconte la façon dont un beau ténébreux. Alors le titre est intéressant parce que c'est une référence en fait à un roman de chevalerie du XVIe siècle qui a été très à la mode, hein, Amadis des Gaules. Mais l'action se passe au XXe siècle dans une société d'estivants de la haute société, au milieu desquels se trouve un personnage, Alan, qui est très charismatique et qui est suicidaire et qui magnétise en quelque sorte tous les autres personnages, tous les vacanciers qui partage ses vacances parce que lui va se suicider, il trouve que c'est donner un sens à sa vie que de se donner la mort. Et un certain nombre d'autres personnages vont soit fuir ce beau ténébreux, soit au contraire être magnétisés et risquer de partager son sort. Il y a un certain nombre de passages qui sont assez oniriques dans Un beau ténébreux, et c'est dans ces passages oniriques, à nouveau, moi je perçois quelque chose qui ressemble à un imaginaire fantaisie, mais c'est encore très très subtil. Par la suite, Gracq va écrire alors une œuvre dont on parlait un petit peu, une œuvre wagnérienne. Elle nous intéresse parce qu'elle va contribuer indirectement à sa renommée, mais à une renommée négative. Il écrit une pièce de théâtre qui s'intitule Le roi pêcheur. C'est une pièce de théâtre qui est consacrée à la visite de Perceval dans le château du roi pêcheur, hein, au premier échec de Perceval, en fait. La pièce est représentée en 1949. C'est un four complet. La pièce se fait étriller par la presse. Puis il y a des coups assez bas qui sont donnés à Gracq, parce que d'une part, on critique ses dialogues, on critique la mise en scène, les acteurs, on critique même le financement de la pièce. Gracq est professeur et la pièce a été en partie financée par le ministère de l'Éducation nationale. Les journalistes vont dénicher ça et c'est la curée sur Gracq. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Alors, il y a deux choses qui me semblent importantes. Bon, il y a le choix d'un sujet qui est médiéval, hein, et qui, encore une fois, montre que son imaginaire tend vers le médiévalisme, c'est-à-dire la réappropriation de thématiques médiévales dans la littérature contemporaine. L'autre facteur, c'est que Gracq, qui est assez susceptible et épouvantablement vexé par la curée dont il a été le centre, et du coup, il écrit un pamphlet, La littérature à l'estomac, pour dénoncer la République des lettres parisiennes. Et pour dénoncer l'entre-soi, le fait qu'on accorde plus d'importance à la vie sociale et mondaine et aux relations qu'à la composition artistique. Pourquoi retenir cette littérature à l'estomac? Parce qu'elle explique ensuite le deuxième grand scandale gracquien qui va faire connaître Gracq. Donc, Gracq assassine dans la littérature à l'estomac l'entre-soi du monde littéraire, les prix, les mondanités, etc. Puis il écrit un roman qui sera son premier grand succès, un très grand succès, qui est Le Rivage des Sirtes, qui est aussi sans doute le roman dans ce qu'il a publié qui se rapproche le plus de la fantaisie. C'est un roman dont le sujet est une vieille république d'inspiration italienne, la seigneurie d'Orsena, qui vit en état de guerre larvée depuis des siècles avec un état ennemi, le Farghestan, qui est d'inspiration orientale. Il n'y a pas de paix, mais il n'y a plus de guerre ouverte. C'est une guerre froide depuis des siècles. Chacun reste de son côté de la frontière. Il y a donc une mer, hein, la mer des Sirtes, qui sépare les deux territoires. Et le narrateur et personnage principal du rivage des Sirtes, Aldo, est issu d'une vieille famille d'Orsena. C'est un personnage cultivé, mais qui s'ennuie, qui cherche un sens à sa vie. Dans un sens, il ressemble un petit peu au beau ténébreux, simplement au lieu de se suicider, lui, son action, sa transgression, car il va commettre une transgression, va provoquer la destruction de sa ville, la République d'Orsena, c'est-à-dire qu'il va franchir la frontière dans un navire militaire, juste pour le plaisir d'aller voir l'ennemi, d'aller voir les terres ennemies, et ça va déclencher une guerre dont on présuppose qu'elle va provoquer l'effondrement de la seigneurie d'Orsena, même si cette guerre n'est pas racontée. Hein. On va jusqu'au moment où la transgression débouche sur le début des hostilités. Pour ce roman, Gracq construit ce que Tolkien appelle un monde secondaire. Sa géographie, même si elle est visiblement inspirée de la géographie européenne et proche-orientale, sa géographie est complètement fictive. Tout est fictif, donc sur le plan politique, même si on peut retrouver beaucoup d'influence. Et en ce sens, il y a un monde secondaire. Est-ce que c'est de la fantaisie? Est-ce que ça n'en est pas? Il n'y a pas du tout de merveilleux. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ressemble à, qui est tellement romanesque que ça s'écarte même du roman historique. Hein, Gracq lui-même dit qu'il n'accorde pas beaucoup d'intérêt au roman historique. C'est pas ce qui l'intéresse dans le roman. Ce roman rencontre un très vif succès. Un succès si vif que l'Académie Goncourt en fait un de ses favoris pour le prix Goncourt 1951. Ça circule dans la presse. Quand Gracq l'apprend, il publie dans deux journaux, dans, Le Figaro littéraire et puis un autre journal littéraire, il publie des tribunes en disant que compte tenu de ce qu'il a déjà noté sur les prix littéraires, il refusera un prix. Il ne veut pas du prix Goncourt. Donc il avertit simplement que si jamais on lui décerne le prix Goncourt, il le refusera. L'Académie Goncourt, à l'époque, elle est on y trouve des écrivains qui sont importants, hein. On y trouve Raymond Queneau, on y trouve Colette, et il s'obstine. Quand Colette va voter, elle notera sur son bulletin « Je m'obstine à voter pour Gracq ». Et Gracq reçoit le prix de l'Académie française qu'officiellement il va refuser. Ça fait un énorme scandale. Il y a une polémique pendant quelques semaines autour de cet écrivain inconnu qui prend de haut les Goncourt. Hein. Il y aura des scènes absolument grotesques. Hein. Alors Gracq, je n'ai pas précisé, il a choisi un pseudonyme pour séparer complètement sa vie d'écrivain de sa vie de professeur. Il veut passer inaperçu. Hein. Il va très loin. Hein. On a des témoignages de ses anciens élèves qui racontent être arrivés avec un livre pour se faire dédicacer le livre par leur professeur Louis Poirier. Et le professeur Louis Poirier a dit « Je ne connais pas Julien Gracq ». Il les a renvoyés avec leur livre. Et là, brutalement, tout apparaît. Il y a des scènes cocasses, en particulier Guy Bedos, le tout jeune Guy Bedos, va faire un coup monté, il va rameuter une quinzaine de jeunes gens pour tenter de s'emparer du professeur Louis Poirier à la sortie de son lycée afin de le forcer à accepter son prix Goncourt. Et le professeur Louis Poirier sera sauvé par les journalistes qui sont là pour prendre des photos. Donc, on a des scènes
refusait les photos.
Aussi. Et oui, il refusait les photos. Donc on a des scènes qui sont vraiment grotesques. Et on en arrive aux Terres du Couchant. Après cet épisode, Gracq ne publie plus rien pendant des années. D'autant plus qu'on l'a accusé dans la presse, même s'il avait refusé le prix Goncourt, de profiter quand même du prix Goncourt qu'il avait refusé parce que la publicité faisait vendre ses œuvres. Il n'écrit plus rien. On peut penser qu'il s'est arrêté d'écrire. Ce n'est pas le cas. Il est en train d'écrire un roman qui lui pose des difficultés, et c'est ce roman-là. Et en fait, il l'écrit probablement entre 1953 et 1956. Et puis, ce roman lui pose tellement de difficultés qu'en définitive, il se lance dans la composition d'un autre roman, qui sera un autre chef-d'œuvre, moins bien accueilli quand même que Le Rivage des Sirtes, Un balcon en forêt, qui sera publié en 58, il me semble. Un balcon en forêt, cette fois, c'est a priori plus du tout de l'imaginaire. Hein. Ça raconte la drôle de guerre vue par un officier de l'armée française qui, en 1939-1940, va cantonner dans la forêt des Ardennes. Ça raconte en fait les derniers mois de la vie de ce lieutenant Grange qu'il passe dans un sursis enchanté, en fait, avant la catastrophe qui se profile, hein, c'est-à-dire la percée de l'armée allemande. Ça va beaucoup déstabiliser la presse, d'ailleurs, qui avait déjà commencé à étiqueter Julien Gracq comme un auteur d'imaginaire, et qui se retrouve face à un roman qui semble être un roman historique ou un roman d'actualité. Mais pour Gracq, il affirme qu'il n'y a pas vraiment de différence entre Le Rivage des Sirtes, qui a pourtant lieu dans un lieu complètement imaginaire, et puis Un balcon en forêt, qui se déroule en France en 1939-1940. Il a d'autant plus raison, en fait, mais bien sûr, c'est une clé qu'il est le seul à posséder, qu'il y a un roman de transition entre Le Rivage des Sirtes et Un balcon en forêt, et ce roman de transition, c'est Les Terres du Couchant, mais qui reste impublié. Quand il publie Un balcon en forêt, il prétend qu'il travaille encore sur ce roman-là, simplement qu'il a des difficultés à le terminer, qu'il ne sait pas très bien où ce roman l'amène. Et puis dans les années qui suivent, il abandonne. Et non seulement il abandonne Les Terres du Couchant, mais il n'écrira plus de romans. Alors, il continuera à écrire, hein. Il écrira des essais, il écrira ce qu'on appelle de la littérature en fragments, hein. Donc des recueils comme En lisant, en écrivant, des recueils comme Lettrine. Il se rapproche un tout petit peu de l'autofiction, d'ailleurs, de temps en temps, mais dans de l'écriture en fragments, mais plus de romans. On connaît l'existence de ce roman parce qu'il en parle un petit peu, parce qu'il y a la publication donc, de La Route dans la Presqu'île. Donc de temps en temps, des journalistes ou des lecteurs lui demandent « Mais ce roman, qu'en est-il ? » Et dans les années 80, il dit « Le roman est mort, il ne sera pas publié de mon vivant. » Et puis il s'y tient, hein, puisque c'est quelqu'un qui est quand même très entêté. Hein. Et donc c'est son exécutrice testamentaire, alors je ne suis pas sûr de bien prononcer son nom parce qu'elle doit être allemande, je ne suis pas germaniste, Bernhild Bois, qui a fini par publier le manuscrit inachevé. Alors, que raconte Les Terres du Couchant ? C'est assez frappant parce que ce n'est pas dans le même univers, mais on a l'impression que c'est la suite du Rivage des Sirtes. À la fin du Rivage des Sirtes, la seigneurie d'Orsena, c'est-à-dire cette grande république ancienne, est menacée par une invasion dont on sait qu'elle va la balayer. Au début des Terres du Couchant, on est dans un autre royaume qui s'appelle le royaume de Brégavieille. À nouveau, on est dans un monde secondaire, un monde imaginaire, un petit peu plus médiéval, un petit peu plus nordique, disons temporé, plus français, on pourrait dire, que la seigneurie d'Orsena. Ce royaume est menacé par une invasion qui vient de l'Est. Le nom des envahisseurs change. Mais ce sont des nomades, on a toujours cette image de l'invasion orientale qui menace un état plutôt occidental. Le narrateur et ses compagnons sont des jeunes gens qui, contre l'avis du gouvernement frileux de Brégavieille, comme le gouvernement d'Orsena était un gouvernement frileux qui ne prenait pas d'initiative face à l'invasion imminente, on est toujours dans le même schéma, ce sont quelques jeunes gens qui décident de partir, affronter l'ennemi, un peu comme un certain nombre de volontaires étaient partis grossir les brigades internationales en Espagne dans les années 30. Mais on est dans un cadre qui est plutôt médiéval. Et en fait, le roman inachevé, car il est inachevé, comporte deux parties. Une partie qui nous montre le voyage de ces jeunes gens, la façon dont ils sortent du royaume, dont ils vont s'avancer dans des marches qui sont de plus en plus menacées par l'ennemi, de plus en plus incertaines. Et puis la deuxième partie du roman nous les montre arriver dans la ville de Rocharta, qui est la ville frontière qui est assiégée par l'ennemi nomade, et nous raconte le siège vu de l'intérieur. Et en fait, on ne va pas jusqu'au bout du siège, même si on comprend, puisque vers la fin du roman, une position clé des défenseurs tombe entre les mains de l'ennemi. On comprend que la ville est sur le point de tomber à la fin du roman. On est à nouveau, alors on est dans, en quelque sorte, même si l'univers n'est pas le même, dans la continuation de ce qu'il y avait dans le rivage des Sirtes. Dans le rivage des Sirtes, on était à la veille de l'invasion. Dans les terres du couchant, on est pendant l'invasion. Et on va retrouver les mêmes thématiques dans Un balcon en forêt, où on est à nouveau à la veille de l'invasion et pendant l'invasion. Finalement, il y a un thème obsessionnel dans les trois romans que Julien Gracq va écrire dans les années 1950. C'est le thème de l'invasion d'une vieille civilisation qui ne sait plus se défendre, qui ne sait plus réagir devant un ennemi, qui est un ennemi déterminé, opiniâtre, effrayant. Alors, le caractère complètement imaginaire de ce monde, le caractère aussi un peu médiévalisant. Alors, on est dans une société qui est médiévale, il y a encore des chevaliers, mais en même temps, on est dans une société qui est aussi moderne, moderne au sens historique du terme, peut-être 17e, 18e siècle, parce qu'il y a des armes à feu. Il y a un mélange presque syncrétique de différentes influences qui donne un petit caractère de fantasy, hein, de reconstruction d'un monde purement imaginaire. Cela étant, il n'y a absolument aucun merveilleux.
Surnaturel.
Pas de surnaturel. Ouais. Ouais. Aucun surnaturel. Hein. Et on a affaire à des personnages qui sont certes des personnages sensibles, rêveurs, mais finalement extrêmement rationnels. Hein. Il n'y a même pas présence. Il y a présence d'églises, de chapelles, etc. Il y a même un ordre de chevalerie, hein, mais la religion, la foi n'ont quasiment aucune place dans cet univers-là. Par conséquent, on reste dans quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire, mais qui refuse la magie, le surnaturel. Et donc, on reste entre deux chaises. On reste entre la fantasy et puis une littérature plus classique. Et ça ne fait que confirmer. Alors, je ne dirais pas jusqu'à dire que Julien Gracq a franchi le pas de la fantasy, mais il y a en quelque sorte une espèce de chaînon manquant. Un dernier point avant de vous laisser un peu la parole ou d'être cuisiné. Et il faut savoir que Julien Gracq semble avoir découvert, je dis bien semble, hein, ce que nous on appelle la fantasy et les littératures de l'imaginaire après sa production romanesque. On en a plusieurs traces. Quand il prend sa retraite en 1970, mais 1970, c'est 12 ans après l'abandon, hein, de ce roman, il est pendant 2 mois professeur à l'université du Wisconsin. Et au cours de ce séjour au Wisconsin, il rend visite à Auguste Derleth, le disciple de Howard Phillips Lovecraft. Et on a quelques traces manuscrites qui montrent qu'il a admiré la collection de BD qui semblait impressionnante de Auguste Derleth. Donc il a été en contact avec cet imaginaire-là. Plus frappant encore, même si on en a que peu de traces, à la fin de sa vie, Gracq dit qu'il ne lit quasiment plus de romans. Il préfère lire des ouvrages historiques, des monographies, etc. Mais au cours d'un entretien qui a lieu dans les années 1980 avec Jean Roudot, il dit que le dernier roman qu'il a vraiment marqué, qu'il a lu quelques années plus tôt, c'est-à-dire dans les années 1970, c'est Le Seigneur des Anneaux. Et qu'il a trouvé dans Le Seigneur des Anneaux une vertu romanesque presque intacte. Quelque chose, il y trouve une forme de naïveté, mais une vraie vertu romanesque qu'il ne trouve plus manifestement dans la production romanesque française de son époque. Parce qu'il est assez condescendant avec ses contemporains à la fin de sa vie. Par conséquent, même quand il a abandonné la composition romanesque, il semble malgré tout intéressé par l'imaginaire et par ce qu'on appellera la fantaisie. Et c'est en ce sens que je vois chez lui une espèce de chaînon manquant entre une littérature dite blanche et puis la littérature d'imaginaire. Alors, un avertissement quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas Gracq, c'est pas du roman d'aventure. Si vous cherchez du divertissement, c'est pas exactement chez Julien Gracq qu'il faut le chercher. Hein. Julien Gracq, je l'ai pas précisé, c'est aussi quelqu'un qui écrit de la poésie en prose. Hein. Et en fait, ses romans eux-mêmes ont une écriture qui est extrêmement poétique, très travaillée, très littéraire. Et il cherche davantage à toucher la sensibilité et l'intelligence de son lecteur qu'à écrire de la littérature de divertissement. Voilà pour présenter à très très grands traits.
Donc on va poursuivre la discussion ensemble. Est-ce que d'abord vous avez des... vous en prie. Est-ce que vous avez, vous, des questions à poser à Jean-Philippe Jaworski sur Julien Gracq, que vous le connaissiez déjà ou que vous soyez novice en la matière, n'hésitez pas. Et puis voilà, sinon,
il vaudrait mieux que ce soit vous plutôt que le professeur Besson qui fait des cours sur Julien Gracq. Et alors là, moi, je vais être mal, là.
Moi, je voudrais bien savoir quelle utilité vous ressentez à la publication de ce roman. Si Gracq n'avait pas voulu le publier, je pense qu'il avait de bonnes raisons.
Oui.
Et en même temps, qu'est-ce que vous trouvez de pertinent dans sa publication? Qu'est-ce qui vous a, en tant que chercheur universitaire, je suppose...
Et non.
En tant qu'auteur et professeur,
dans,
si.
Dans ce bouquin-là, que vous ne saviez peut-être pas.
Bon, il y a plusieurs choses. Le premier grand plaisir que j'ai ressenti, c'est un plaisir de lecteur. Moi, je suis un admirateur de Gracq. Il y avait un inédit qui était publié. Quel plaisir, je me suis rué dessus. Alors, en même temps, j'avais conscience de trahir, en quelque sorte, l'auteur. Hein. Mais après tout, bon, c'est un lieu commun, mais on dit que les œuvres n'appartiennent plus à leur auteur. C'est le cas. Donc, c'est publié, j'y vais. Alors, je craignais quand même d'être déçu. Hein. Parce que je me disais, s'il a refusé de publier, ce peut être pour de bonnes raisons. Et c'est vrai que dans le roman, il y a quelques passages où on sent un tout petit peu l'inachèvement. J'avais éventuellement prévu de lire une page parce qu'elle était assez proche d'un imaginaire fantasy, mais on sent bien qu'elle n'a pas été complètement retravaillée parce qu'il y a une répétition qui est vraiment surprenante, quoi, qu'on trouve pas, qu'on ne trouvera jamais dans les textes que Gracq a publiés de son vivant. Donc il y a un petit côté inachevé. Malgré ce côté inachevé, moi j'ai été sidéré par la beauté du style. Hein. C'est ce que je cherche beaucoup chez Gracq. Il y a d'une part, bien sûr, l'imaginaire, mais le style de Gracq est extraordinaire. Il y a une façon très très particulière de travailler sa phrase. Il organise sa phrase autour de mots-clés que souvent il va souligner. C'est quelque chose qu'il a emprunté au surréalisme, hein, qu'il va souligner en les plaçant en italique. Et il y a un rythme dans la prose gracquienne qui est extrêmement poétique, et ça, je l'ai retrouvé. Et j'ai retrouvé des pages, en particulier à la fin de la première partie qui relate le voyage, des pages qui sont d'une beauté étourdissante. C'est d'ailleurs un élément qui me... Alors, je fais une digression. C'est un élément qui me ferait penser à rapprocher Gracq de la fantasy. Pour Tolkien, j'en reparlerai tout à l'heure, pour Tolkien, ce qui fait que le conte de fées fonctionne, c'est l'enchantement qu'il génère chez le lecteur ou l'auditeur. Et Gracq, en fait, se sert de son style pour enchanter le lecteur. Alors, ça reste une lecture exigeante, mais je l'ai retrouvé vraiment. Donc, il y a eu un vrai plaisir de lecture. Maintenant, au-delà de la simple curiosité, qu'est-ce qu'il a écrit qui n'a pas été publié, je trouve que sur le plan de la compréhension générale de l'œuvre de Gracq, c'est fabuleux parce que c'est vraiment le roman qui fait le trait d'union entre les deux grands romans de l'œuvre de Gracq, c'est-à-dire Le Rivage des Sirtes et Un balcon en forêt. Et d'une certaine façon, c'est dommage qu'il ait refusé de le publier de son vivant parce que ça devient très visible pour le lecteur qui connaît les deux autres romans, hein, et ça explique ce qu'il disait, que pour lui, il n'y a pas de hiatus, il n'y a pas un écart si important entre son roman dit historique, hein, Un balcon en forêt, et puis son roman d'imaginaire, Le Rivage des Sirtes, parce qu'en fait, la même thématique est filée de roman en roman. Hein. Donc, pour le plaisir du fan, pour le plaisir aussi de l'amateur de beau style, parce que c'est un styliste extraordinaire, et puis aussi pour la compréhension de l'œuvre dans son ensemble. Pour ces différentes raisons, il me semble légitime de trahir Gracq en le publiant.
Je trouve qu'il y avait déjà un rapprochement très fort, donc moi voilà, j'avoue, la publication des Terres du Couchant, je suis absolument ravie de découvrir, étant fan moi aussi, m'avait échappé, oui. Ça a dû tomber. Je ne sais pas, il y a eu peu de communication.
Il y a eu peu de communication, hein. Parce que moi, j'ai découvert il y a quelques mois, simplement.
Bravo. Donc moi, je l'ai raté, n'étant pas bibliothécaire et donc pas abonné à Libre Hebdo. Oui, bien sûr. Ouais, non, ça a dû quand même avoir un tout petit peu d'écho, mais ça n'a pas eu tout, alors que ça aurait dû, enfin, vu la stature de cet auteur, être présenté.
Oui, c'est ça, oui.
Ouais. Tout à fait. C'est ce qui est quand même étonnant. Oui, c'est,
alors, moi, quand j'ai appris qu'il était publié, j'ai cherché et j'ai trouvé peu d'articles, finalement. Hein.
Non, ouais, tout à fait. Oui, ça. Et, mais je trouve qu'il y a déjà un rap. Enfin, voilà, les deux grands romans gracquiens. Enfin, il y a deux fois deux romans. Au château d'Argol et Un beau ténébreux vont ensemble. Et puis, les deux autres, Le rivage des Sirtes et Un balcon en forêt, racontent vraiment la même histoire. Pas dans le même monde, mais vraiment la même histoire. Un jeune homme rêveur et dans un état d'oisiveté momentané qui se trouve se prolonger, attend la catastrophe qui ne saura pas manquer de se produire. Dans un cas, il va la provoquer. Dans l'autre, on sait qu'elle va se produire puisqu'elle est historique et que donc on l'attend à ce moment-là et à cet endroit-là, précisément dans la forêt des Ardennes. Les personnages féminins, oui. Vanessa d'un côté, Mona de l'autre, qui sont des personnages de femmes fées qui font une espèce de rôle d'intercesseur entre les deux mondes, sont très proches. Il y a vraiment des échos. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, il est écrit la version imaginaire avant la version réaliste, comme s'il avait fallu ce détour pour raconter ce qui est sa propre histoire, parce qu'il a également vécu la drôle de guerre avant d'être prisonnier à Dunkerque. Pour raconter sa propre histoire, il a d'abord fait ce détour par l'invention d'un monde secondaire et un deuxième détour apparemment par les terres du couchant avant de pouvoir en revenir à quelque chose qui était une écriture plus...
Oui, il y a effectivement un rapport très très intime entre ce que Gracq écrit et puis son vécu. Il fait une confidence qui est assez frappante. Il note, je crois que c'est dans Lettrine, que pendant 18 ans, peut-être un peu moins, pendant 18 ans, il a eu un souvenir extrêmement net de son expérience de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il a écrit Un balcon en forêt, et il dit que depuis qu'il a écrit Un balcon en forêt, en fait, ses souvenirs de la guerre se sont émoussés, dissipés. Donc il y a quelque chose de la substance même, hein, de la sensibilité, de la mémoire qu'il a passé dans le roman.
Oui, oui. Ouais. Et Un balcon en forêt, et d'autre part un roman donc à la fois réaliste dans son contexte et peut-être un des plus chargés d'imaginaire mythologique, puisque ça se passe dans cette forêt des Ardennes. Il y a un bruit. Ah non, mais ça doit être de la musique, en fait. Au départ, je pensais que c'était un téléphone. Donc, je me disais, mais décrocher.
Le réflexe du prof. Là.
Mais voyons, éteignez cette chose. Donc, en fait, pas du tout. C'est juste les bruits lointains qui nous parviennent. Donc, je reprends. Donc il y a toute une mythologie germanique et un imaginaire des contes et légendes. Il y a le petit chaperon rouge qui passe, etc. Donc en fait, on n'a pas une distinction si nette chez lui, parce que Le rivage des Sirtes, qui est dans un autre monde, est au contraire assez rationnel, comme tu le disais. Et alors qu'en revanche, il y a beaucoup d'onirisme et de mythes qui passe dans les Ardennes du balcon en forêt.
En passant d'un roman à l'autre, moi, je suis frappé par la circulation des images. Par les images, je parle vraiment des métaphores. Il y a dans certains romans des métaphores filées sur deux ou trois phrases qui deviennent le sujet du roman suivant. Dans Un beau ténébreux, il y a un moment donné, une métaphore, Un beau ténébreux se déroule donc en Bretagne, hein, au bord de la mer. Il y a une métaphore, qui évoque le fait que les personnages qui sont dans cet hôtel, qui sont des estivants, sont dans la situation de gens habitants de grands palais en bord de mer, menacés par une catastrophe imminente. Et en fait, c'est le sujet du rivage des Sirtes. Pour à nouveau répondre à votre question, j'ai retrouvé le même phénomène dans Les Terres du Couchant par rapport à Un balcon en forêt. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans Les Terres du Couchant, qui a priori est un roman d'imaginaire, il y a à un moment donné une métaphore qui prépare Un balcon en forêt. C'est-à-dire que le personnage principal, au cours d'une de ses étapes, prend une pension dans une petite ville qui est au contact de la forêt. Et il y a un orage et il observe la forêt depuis son balcon. Ouais.
Donc et la forêt est comme une mer.
Voilà. Il y a des images qui circulent d'un roman à l'autre et qui filent en quelque sorte les romans.
J'avais une autre question qui m'est totalement sortie de la tête. Si vous en avez Ce serait bien, oui.
Excusez-moi, avec ta musique, j'ai un peu de mal à vous entendre.
Est-ce que thématiquement, tu fais un rapprochement entre
le fait que Grasse soit stylistiquement dans un entre-deux, thématiquement dans un entre-deux entre littérature blanche et fantasy, et stylistiquement dans un entre-deux aussi, puisque entre roman et poésie, puisqu'on a souvent qualifié même, enfin il a écrit de la poésie en prose, mais on a aussi souvent qualifié ses romans de romans poétiques, qui serait un genre à part entière, dont il serait l'un des premiers représentants. Donc, est-ce que vous faites un rapport entre le fait qu'il soit un peu tout le temps, finalement, dans un entre-deux entre...
Bon, je vais me risquer à une interprétation qui est condamnable, hein, puisque... Il s'agit de rapprocher l'homme de l'œuvre, ça c'est toujours risqué. Grac est quelqu'un qui se singularise, hein. C'est quelqu'un qui reste toujours un peu... on citait le cas du Goncourt refusé, c'est quelqu'un qui refusera aussi la Légion d'honneur, qui refusera les invitations de François Mitterrand, alors qu'il est en contact avec le pouvoir, parce que par ailleurs il a fréquenté Matignon et l'Élysée quand Georges Pompidou était Premier ministre et président de la République, mais ce qu'il fréquentait, c'était pas l'homme de pouvoir, c'était son ancien ami de Normalsup. Donc, il est toujours dans cette prise de distance, et alors peut-être que ça peut expliquer aussi son originalité, tant sur le plan stylistique que sur le plan de l'imaginaire. Le fait d'être toujours à côté des écoles. Il est passionné par le surréalisme. Hein. Quand il est invité aux États-Unis pour être professeur, il va entre autres faire des cours sur le roman français de l'après 45 et sur le surréalisme. Hein. Il fera des conférences sur André Breton. Mais dès 1939, il s'est mis d'accord avec Breton pour ne pas rentrer dans le groupe surréaliste. Donc il conserve toujours ce quant à soi, qui explique d'ailleurs aussi son pseudonyme, hein, Julien Gracq, hein, le prénom qu'il adopte, c'est en hommage à Stendhal et à Julien Sorel, et c'est toujours pour souligner une espèce de prise de distance avec la société et le monde. Alors sans doute que son originalité, tant thématique que stylistique, peut s'expliquer par ce rapport. Alors c'est très particulier parce qu'on peut se dire quand même que c'est quelqu'un qui est très condescendant, qui est un peu méprisant. Il paraît que c'était quelqu'un de très accueillant. Mais encore, on a des bruits qui sont contrastés. Hein. Il y a des bruits de certains anciens élèves qui disent que c'était un professeur, certes très organisé, mais très froid. Alors qu'à Saint-Florent-le-Vieil, il recevait n'importe qui venait discuter avec lui. Et il était capable de passer des heures avec lui. Donc difficile à saisir. En tout cas, il y a une prise de distance. Et alors, c'est sans doute une clé pour comprendre aussi la prise de distance avec le monde. Hein, je ne sais pas si c'est le refuge ou en tout cas le détour par l'imaginaire, hein, que tu évoquais. Hein. C'est vrai qu'il commence par un détour imaginaire avant de revenir sur ce qu'il a vécu, lui. Hein, mais il est à part, du coup. Hein, il est à part en tout.
Un autre trait comme ça qui est à la fois thématique et stylistique et qui en fait cette espèce de chaînon manquant, c'est la place de la description, puisque c'est un écrivain géographe et le roman poétique est souvent placé sous ces auspices d'une espèce d'immobilité très belle et qui caractérise très bien l'œuvre de Gracq, qui est une attente qui jamais n'explose à la fin. Et donc cette place de la description qui là encore peut expliquer pourquoi il aime Tolkien et la manière dont ces univers nous parlent en termes de world building, quoi, de construction, de voilà, parce qu'il il attribue une attention, enfin il met une attention sur les plus petits détails de la nature qui entourent les personnages, que cette nature soit ou pas réaliste, et voilà, ce sera la même, et il va investir là-dedans, notamment tout un lexique spécialisé du géographe qui fait que ces descriptions ont une saveur très particulière, à la fois une précision et une étrangeté tout à fait particulière.
Même son langage est une barrière à l'action. Quand je me souviens plus, il y a une histoire d'échelle que les deux protagonistes vont aller chercher. Mais ça dure 3 pages, oui, vas-y, avance. À part ça, on se réjouit quand même, parce que tout est beau. Quoi. Oui.
Vous avez raison, en fait. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'il a bloqué dans la composition de ce roman. Hein. Il y a très peu de scènes d'action. Elles arrivent de façon assez surprenante finalement, parce que le rythme du roman est très très lent. Et puis, alors qu'on s'achemine, alors Graf disait qu'il avait eu du mal à saisir en fait le fil directeur de son œuvre. Hein. Alors qu'on s'achemine vers la catastrophe, en fait, dans la deuxième partie, on est dans une peinture de plus en plus sereine de la ville assiégée. Alors qu'il y a une atrocité quand même qui a eu lieu et qui est décrite du reste. Donc c'est vrai que l'écriture descriptive de Gracq rassérène en quelque sorte le roman, en ce qui me concerne le lecteur, parce que c'est vraiment magnifique, mais est en décalage avec ce qu'on attend d'un roman d'évasion. Hein.
Oui, oui, ça c'est clairement le point où il n'y a plus de point commun, c'est que... C'est une écriture sans concession et sans action et sans fin heureuse, hein, comme Tolkien comme Tolkien y oblige. Voilà, et donc, c'est trop contemplatif. Une dernière rapide question, ou est-ce qu'on... Oui.
Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une grande proximité thématique entre deux grands romans, je trouve des grands romans, Le Rivage des Sirtes, des Tartares de Buzzati.
Oui.
Alors, je voulais savoir simplement, je n'ai jamais vérifié s'il y avait antériorité de l'un par rapport à l'autre, s'il y avait une influence quelconque de l'un par rapport à l'autre. Au moins, il y a une possibilité thématique assez claire, hein, ces gens qui attendent dans une sorte de no man's land, qui attendent une invasion qui va venir peut-être, qui finit par arriver chez Buzzati. Y a-t-il antériorité de l'un?
Corrige-moi si je me trompe. Il me semble qu'il y a antériorité du désert des Tartares sur Le Rivage des Sirtes. Mais Gracq a toujours nié le lien. Il prétend, lui, que c'est plutôt un roman de Pushkin, je crois, La fille du capitaine, qui aurait pu influencer Le Rivage des Sirtes. Mais même s'il admettait qu'il y avait effectivement un certain nombre de points communs, il nie toute influence en fait de Buzzati sur son écriture. Je pense que ce sont des romans qui apparaissent portés par le contexte historique.
Oui, il y a des travaux comparatistes qui ont effectivement rapproché ces deux œuvres parce que ça semble s'imposer, mais sans voilà sur des points thématiques, stylistiques, etc. Une étude comparée, mais sans qu'il y ait influence réciproque.
Cela étant, vous avez raison, les points communs sont vraiment frappants, quoi. Hein. Des postes frontières, des personnages qui sont quand même militaires, qui s'ennuient, la menace d'un ennemi. La nuance, c'est que chez Buzzati, c'est une montagne qui sépare, alors que chez Gracq, c'est la mer. Enfin, ça reste un obstacle naturel, c'est-à-dire c'est vraiment une image géographique de la frontière. Et c'est vrai que les similitudes sont frappantes. Et la catastrophe aussi, hein.
J'espère que vous repartez avec des envies de lecture et des titres. Si vous avez besoin de détails sur les titres en question, si vous n'avez pas bien saisi ou quoi, vous n'hésitez pas à venir nous le demander. Merci pour votre attention.
Merci, oui.